J'ai le trac.
Je ne juge pas, je ne juge pas.
You're sweet. This is a new summer feeling when you are so close. Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast conversationnel sur et autour de la pop culture. Je suis votre hôte, Yael Simkovitch. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle mouture du podcast avec notre premier entretien. Une conversation débridée avec quelqu'un de passionné par un aspect de la culture populaire qui a la gentillesse de venir en parler avec moi. Notre premier invité est quelqu'un de choix, puisque c'est celui qui m'a fait l'honneur de copiloter mes podcasts toute l'année dernière. J'ai nommé Dominique Montet. Bonjour Dominique.
Bonjour Yael.
Alors avant de commencer la conversation, laisse-moi un tout petit peu expliquer à nos chers auditeurs pourquoi tu es dans la chaise de l'invité aujourd'hui. Bon, alors la mauvaise nouvelle, c'est que tu risques, je dis bien tu risques, parce que nous allons tout faire pour que ce ne soit pas le cas, mais tu risques d'avoir moins de temps à me... On nous met un peu me consacré cette année, en bonne égocentrique que je ne pense qu'à moi. Et du coup, déjà ça me rend très triste, mais surtout, je ne pouvais pas faire ça à nos auditeurs sans qu'ils puissent avoir une idée de pourquoi tu avais moins de temps. Et si je ne voulais pas qu'ils pensent que c'était de ma faute, par exemple, tu vois.
je suis très fâchée.
Voilà, donc du coup je me suis dit bon, faut qu'on en parle avec Dom à l'antenne. Et surtout je me suis dit la raison pour laquelle t'as moins de temps, c'est une raison intéressante, c'est une raison qui est liée à la culture populaire, c'est un sujet qui me passionne aussi, donc on va en parler. Puis je me suis dit surtout, vu que je vais être abandonnée toute seule dans ce podcast, va bien falloir que je trouve d'autres choses à faire. Je peux pas juste parler de séries avec toi. Et je me suis dit en même temps j'ai toujours eu envie de faire des entretiens avec des gens passionnants. Et je me suis dit je vais faire ça et je vais faire d'une pierre deux coups, je vais faire le premier avec Dom. L'autre raison, c'est que le sujet dont je voudrais qu'on parle, la raison... toi Dom, dis-nous pourquoi t'as moins de temps. En général.
J'ai moins de temps en général parce que comme pas mal de gens qui me suivent sur Twitter, les pauvres, savent, je suis scénariste avant beaucoup de choses.
Et, bienvenue au club, le avant beaucoup de choses, je connais ce concept.
Et du coup, cette année, ça risque de prendre un coup d'accélérateur. Pour l'instant, il n'y a rien non plus de... d'acté à 100%, c'est toujours à l'étape de... tout le monde connaît les étapes. Toujours ceux qui me suivent sur Twitter.
je pense pas que tout le monde connaît les étapes, mais justement, on va en parler. Mais en tout cas, c'est clairement une priorité dans ton année, quoi.
Pour l'instant, à ce jour, oui, bien sûr. C'est, sur un projet, je me suis engagé avec une boîte de production pour tenter de développer... un projet dans l'année, donc c'est sûr que si ça se trouve, je vais avoir autant de temps que l'année dernière parce que personne vous perce aucune chaîne. Parce que j'ai un
producteur. Arrête, non, on ne jinx pas. Tu ne vas jamais avoir de temps, tu vas travailler toute l'année, tu vas développer 5 séries et on ne va plus jamais pouvoir.
c'est ça. Je réfléchis déjà à un spin-off sur la série que j'écris alors que pour l'instant elle n'a pas de diffuseur. Mais oui, donc c'est un risque, c'est un joli risque, que cette année, j'ai surtout pas vraiment le temps de m'asseoir pour papoter, mais pas vraiment le temps de voir beaucoup de choses, en fait. Et ça a déjà commencé là, en ce moment. Je vois très très peu de fiction, et de fait, je peux pas trop en parler.
C'est, en même temps, on en connaît bonne... certains.
On en connaît certains qui ne voient pas mais qui en parlent. Mais en fait, l'objectif, c'est de voir les trucs pour en parler. Enfin, c'est toujours un truc que je me suis fixé. C'est la première étape, en fait. Est-ce que tu veux parler de ça? Bon, alors attends. Est-ce que je l'ai vu? Non. Non, je ne peux pas en parler. C'est assez primaire. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas vu grand-chose. Et je vais pas jouer mon vieux con en disant j'ai pas vu grand chose qui m'emballait donc du coup je regarde plus rien. C'est juste que j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop l'énergie. Et on en parlait, c'était un de nos premiers podcasts et ça revient un petit peu en boomerang. C'est pas mon dernier, hein, mais ça revient un peu comme un
J'espère bien
boomerang.
parce que
Non, non,
je
non,
tiens juste à dire à nos auditeurs, donc nous avons passé un pacte, dès que tu as vu un truc
non. C'est ça.
et que ça te
Je
plaît,
viens.
moi je trouve le temps de le voir et on en parle quoi qu'il
Je viens,
arrive.
c'est le spécial guest. Et alors, donc, si dans chaque épisode je viens pour dire que j'ai vu un truc,
Et à la
si
fin, ils vont
dans
dire,
certains
c'était une
épisodes j'ai vu
arnaque.
deux trucs, vous pourrez vous imaginer très rapidement qu'en fait je bosse pas grand chose. Je fous pas grand chose de mes journées. Mais en fait, du coup, je sais plus ce que je voulais dire.
I'm sorry, je t'ai encore coupé la parole.
Non, c'est pas
Et ça te manquera hein, quand tu seras plus
grave.
quand tu seras plus là tout le temps.
Ouais, genre, on va arrêter de
Non mais
parler.
que non mais que la Pig TV, je pense que tu voulais parler du fait qu'on
Voilà, oui,
avait
c'est ça,
qu'on
exactement. C'est que c'est pour moi, c'est de plus en plus difficile de trouver des séries qui m'intéressent à regarder, pas parce que les sujets m'intéressent plus ou parce que je considère que maintenant il n'y a plus que de la merde ou quoi. Non, c'est même le contraire. C'est que trouver le truc qui va me plaire dans le flot de ce qui tombe toutes les semaines, c'est super, super dur, super compliqué. Ça devient pour moi aussi compliqué que l'actu cinéma. Sauf que les engagements sont pas les mêmes. C'est pas 1 heure et demie à 2 heures et demie d'engagement, c'est plusieurs épisodes. Je suis peut-être pas assez assidûment les critiques américains qui me plaisent, mais en même temps, eux-mêmes ont du mal
À suivre.
à suivre le rythme. Donc du coup, ouais, ça devient vraiment compliqué pour moi de ressortir un truc du lot et de me le regarder. Je suis un petit peu dans des zones de confiance. Ah, je connais ces auteurs-là, donc je vais aller regarder. Mais du coup, je passe à côté de trucs vraiment intéressants. Je suis passé complètement à côté de Fleabag cet été,
Cet
par
été.
exemple. Je suis en train de passer à côté de plein de trucs à la rentrée qui traditionnellement m'auraient intéressé au moins au stade du pilote. Là, du coup, j'ai vu quasiment aucun pilote de la rentrée. À part This Is Us, dont j'avais bien aimé le pilote, j'ai rien vu du tout. J'ai même pas regardé, alors là, honte franco-française, tellement c'est tellement génial, parce que c'est tellement beau, parce que c'est tellement, il y a tellement d'argent, que c'est tellement bien, que c'est tellement novateur, que c'est tellement sombre. Westworld, j'ai pas vu une seconde.
Alors, au moment de la publication de ce podcast, j'espère que l'autre podcast que j'ai enregistré sur Killjoys et Dark Matter, où je dis tout le mépris que j'ai pour The Westworld, tu vois, c'est pour te dire maintenant, j'ai changé de
The
titre. Et je l'ai déjà dit, mais ouais, on a aussi enregistré des. Enfin, je bosse sur un podcast hybride, je ne sais pas si on va réussir à le publier comme ça, mais où il y a des conversations à chaud après la visionnage d'un podcast et où je dis la fin du visionnage de Westworld. Berk, berk, berk. Donc
Westworld.
voilà. Et j'ai
C'est
envie
un
de te dire.
podcast minute, il dure 3 secondes. Alors, ah ben,
J'ai
ben,
envie de
ben,
te
ben.
dire, j'ai envie de te dire, c'est un peu. Non, parce que c'était une conversation avec mon petit frère et Marine. Et en fait, mon petit frère avait des trucs à dire. Et donc, c'était vraiment intéressant. Mais non, le truc, c'est que j'ai envie de te dire, j'ai détesté à l'époque où je l'ai regardé. C'est-à-dire, pas longtemps après sa sortie. Je pense en septembre, octobre. Aujourd'hui. Avait souffrant de ma post-Trump stress disorder depression, je trouve ça particulièrement néfaste.
D'accord, ok.
Parce que c'est une vision tellement facile et en même temps cynique de l'humanité. Alors après, attention, j'ai vu que le pilote, il paraît qu'à partir de l'épisode 2, les choses changent. Marine est en train de regarder la suite pour qu'on puisse en parler, qu'elle puisse me dire ce que c'est. Mais voilà, moi j'ai un côté dire que. Au fond du fond, en fait, les humains, tout ce qu'ils ont envie, c'est de violer, tuer et d'avoir le pouvoir sur les autres. Je pense que déjà, c'est pas vrai. Et du coup, et surtout, j'ai pas envie de passer du temps avec
Oui,
dans ce genre d'univers.
ça se comprend.
Donc voilà. Donc, excuse-moi, c'était ma petite aparté.
Non, non, mais...
Je m'en fous de Westworld. Tu n'as rien raté avec Westworld. Non, mais par contre, en fait, du coup, ça me fait. Un des trucs sur lesquels j'ai décidé, quoi qu'il arrive, de t'exploiter déjà pendant l'année, c'est que. On va faire, logiquement, le premier podcast est déjà sorti, vous avez dû l'entendre, mais on fait des podcasts pendant tout cet hiver sur les séries de l'été et pour se mettre à jour pour l'année prochaine. Et du coup, je t'avais de fortement conseillé et demandé de regarder Brain Dead.
Brain Dead!
Et du coup, tu l'as vu. Et
Oui!
je pense que toute conversation qu'on peut avoir, une fois de plus, post-Trump, sera différente de la conversation qu'on aurait pu avoir près.
Moi, de toute façon, toute fiction, il y a des têtes qui explosent. Moi, je suis pour.
Donc voilà, donc de toute façon on aura une conversation sur Brainen, donc ce qui prouve bien qu'effectivement des fois tu suis les conseils qu'on te donne, mais tu es aussi soumis à la volonté de la masse puisque tu m'as avoué que tu avais aussi de toi-même regardé Stranger Things cet été, comme tout le monde. Et du coup là aussi on va en parler, je pense que ça vaut aussi le coup d'un podcast. Et donc de toute façon voilà, donc tu regardes quand même deux trois trucs, mais effectivement t'as pas le temps de regarder beaucoup plus. Et donc du coup ben vu que moi je suis aussi censée être scénariste, mais je fous rien. J'ai plus le temps, donc je vais continuer à faire des podcasts en espérant que je puisse t'embêter tout le temps. Mais justement, d'ailleurs, une des raisons aussi pour laquelle je voulais t'inviter, donc pour parler de ta passion, donc pas juste les séries, mais le métier de scénariste, hein, moi c'est ça dont je voudrais
Je
qu'on
croyais que
parle
tu allais
aujourd'hui.
parler du badminton, mais ouais,
Non,
continue.
non, non. Et la raison pour laquelle donc je voulais faire cet entretien avec toi, où on parle du métier de scénariste et de ce que ça représente pour toi et de comment ça fonctionne pour toi et tout ça, c'est aussi parce que tu fais un podcast qui s'appelle Dialogue d'auteur et je trouvais ça rigolo de retourner le truc contre toi. Tu peux juste dire quelques mots sur Dialogue d'auteur, juste que nos... On en a déjà parlé ici, mais quand même que nos auditeurs sachent de quoi il s'agit.
Alors, comme tout bon concept français, je l'ai copié d'un américain. Donc, Dialogue d'auteur, c'est l'adaptation française du podcast de Ben Blacker, le Writer's Panel, où je reçois un scénariste et on papote d'écriture, comment dire, on parle de leur parcours, on parle de leur méthode d'écriture. Donc, vous aurez le droit à moi qui demande à quelle heure ils écrivent le plus. Est-ce qu'ils utilisent un logiciel? Quel logiciel? Est-ce qu'ils préfèrent travailler avec de la musique ou pas? Enfin, plein de petites choses qui passionnent certaines personnes et vont emmerder considérablement d'autres. Mais ça va, c'est pas le cœur de cible. Non, le but, c'était pas de peut-être aussi un petit peu désacraliser l'écriture. En France, on a tendance à imaginer le scénariste comme une sorte de petit être à vif qui vit seul dans sa chambre et qui étale son génie sur les pages avant de l'envoyer à un producteur et de se faire trahir.
C'est exactement ça. Je pense qu'il faut écrire immédiatement un cartoon qui représente ce que tu
C'est
viens
ça.
d'écrire.
Et
Nos amis artistes, allez-y.
moi, j'avais
On n'a pas
envie
assez de
de.
fans en fait
C'est ça.
pour faire ce genre de choses. Un jour, ça sera ça. Et donc,
J'avais
t'avais.
envie plutôt d'avoir des conversations avec des gens
Qui parlent de leur métier.
qui parlent du métier, que bah, non, c'est pas juste ça, c'est pas c'est aussi de la collaboration avec un producteur quand ça se passe bien, c'est aussi de la collaboration avec un réalisateur quand ça se passe bien, et puis même quand ça se passe pas toujours bien, bah, ça reste de la collaboration. Que c'est pas juste je fonds mes pages, je les dépose et après je râle parce que c'est pas exactement comme je l'avais écrit. J'avais envie de discuter avec des gens qui travaillaient seuls, qui travaillaient avec d'autres scénaristes, qui avaient envie de travailler avec d'autres scénaristes ou qui avaient envie de travailler seuls. Enfin, j'avais envie de vraiment de creuser
J'avais envie de répondre à toutes les
tous les
questions qu'on se pose
aspects,
quand on veut être
voilà.
scénariste et qu'on ne sait pas comment ça marche.
Pour prouver déjà qu'il n'y a pas de vraie
De
manière de
méthode unique,
fonctionner,
ouais.
il n'y a pas de méthode unique. Il n'y a pas non plus, on peut se dire, il y a plein de bouquins, il y a des méthodes à suivre. Et bien, des fois, il faut savoir aussi s'en détacher et fonctionner à l'instinct. Enfin, c'est vraiment prouver que il n'y a pas vraiment de méthode pour écrire, si ce n'est travailler, 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 mais qu'il y a plusieurs méthodes différentes, plusieurs aspects différents, plusieurs manières d'aborder. La vérité, au final, c'est juste si le projet, au final, nous plaît une fois qu'il est tourné, ben, c'est une belle victoire. Et après, je dirais peu importe comment ça s'est passé. Donc, c'était vraiment de creuser ça avec eux, d'en apprendre plus, en fait, d'être un petit peu éducatif tout en étant amusant pour, évidemment, les gens qui écoutent le podcast, mais aussi pour moi, tout simplement. très, très égoïstement, parler avec des scénaristes et savoir comment ils fonctionnent. Ça peut tantôt me prouver que bah, oui, bah, j'ai raison de fonctionner comme ça, ou que ah, bah, il fonctionne absolument pas de la même manière que moi, et je ne vais certainement pas fonctionner comme lui, mais c'est intéressant de savoir comment. Donc du coup, c'est aussi très formateur pour moi de faire ça, même si ce podcast aussi, du coup, est un petit peu, suite à des problèmes techniques, en hiatus depuis pas mal de temps déjà. Mais je le réactiverai aussi ponctuellement dans l'année. Avant, j'avais un rythme un petit peu tous les 2 mois, j'en balançais un. Enfin, tous les mois, j'en balançais un. Cette année, ça ne sera pas sur un rythme régulier. Ça sera vraiment quand j'aurai l'occasion, quand j'aurai l'opportunité, quand je rencontrerai quelqu'un, je mettrai ça en place, mais ça sera beaucoup moins régulier cette année que les 2 premières années d'existence du podcast.
Mais effectivement, je conseille aux scénaristes ou aux passionnés de séries en général, hein,
Oui, tout à fait.
qui veulent comprendre comment ça marche, surtout ben, regardez parce qu'il y a, ben, il y a des selon l'invité aussi, enfin, voilà, pour les gens qui ont aimé 10%, il y a une conversation avec Fanny Herrero, et puis il y en a plein
Tout à fait.
avec des. Il y en a aussi avec des gens moins connus. Mais c'est vraiment passionnant. Effectivement, en plus, c'est quelque chose qu'on sait peu parce qu'il y a beaucoup moins de couverture médiatique sur ce genre d'aspect. En France, même s'il y a des gens qui vont sur les tournages de séries françaises, c'est pas exactement le même type de conversation. Et alors, juste, t'as dit que tu avais copié un modèle américain, et c'est rigolo parce que c'est
Il a
rigolo parce
fêté
que.
son 300e, j'en ai fait 13.
Mais ouais, bon, c'est pas grave, on va pas. C'est pas une question de quantité, Tom.
Non,
C'est une question de qualité.
oui.
Alors, du coup, en plus il y a Los Angeles, enfin, c'est pas exactement
Non, non, lui il
le
retourne une
même
pierre, il
pool.
trouve un scénariste, c'est un
Oui,
petit
c'est
peu
ça.
plus dur.
Et du coup, ben, parle un peu de Ben Blacker, et surtout parce que c'est un peu, enfin, on en a déjà parlé dans Il faut qu'on parle, on a parlé de quand on parlait de nos podcasts préférés, mais voilà, c'est une des raisons pour laquelle on s'est rencontrés, c'est une des raisons pour laquelle on s'est, enfin, en tout cas, on s'est rencontrés intellectuellement, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés physiquement, mais la raison pour laquelle on a fait ah, mais en fait, on a grave des trucs à se dire, c'est parce qu'on était tous les deux fans de Ben Blacker.
Ah bah déjà Ben Blacker, de toute façon toi tu pouvais l'aimer qu'à la base, étant donné que ses 2 séries préférées c'est Buffy et The West
Je
Wing.
savais pas pour The
Ah,
West,
si,
oui,
si,
mais non, mais c'est trop mon ami
il
Ben. De
a
toute façon, j'ai toujours su.
deux obsessions, il le dit assez souvent, c'est Buffy et The West Wing.
Donc mes deux séries
Donc.
préférées, effectivement, j'avoue, c'est.
Et c'est un type dont j'adore l'approche de l'écriture, il est à la fois très humble et. Quand il est content d'un truc qu'il a fait, il le dit. Enfin, c'est pas de la fausse humilité, quoi. J'aime bien sa manière de dire le fait que son travail, c'est d'écrire des gens très intelligents, même si lui, il se considère pas du tout comme étant quelqu'un d'intelligent. Donc c'est assez mignon venant de lui, vu que ça a
Ça
l'air d'être
ressemble
quelqu'un.
plus à un truc, ça ressemble à un truc que toi tu dirais aussi.
Ça, ouais, peut-être.
Pas un truc que moi je dirais, par contre, je suis beaucoup trop égocentrique, enfin pas égocentrique, égomaniaque. Beaucoup trop convaincue de ma propre valeur. Non, je plaisante.
Écoute,
Enfin, pas vraiment, mais on va le faire croire pour le public.
non, mais je
C'est
trouve
toi qui es humble.
il a ouvert une brèche, même si c'est pas lui qui a inventé le concept de parler à des auteurs, mais il a ouvert une brèche en mettant autant en avant l'écriture. D'habitude, on a tendance à faire venir les réalisateurs pour qu'ils nous parlent de comment ils ont travaillé leur plan, comment ils ont travaillé l'histoire, tout ça, c'est très intéressant, mais on a tendance à oublier l'étape juste avant. Où toutes les bases sont posées, où toute la réflexion est faite, toutes les difficultés que ça amène. Et moi, ce que j'adore avec le Writers Panel, et ce que j'espère qu'à son niveau, Dialogue d'auteur peut faire en français, c'est vraiment désacraliser l'écriture et montrer à un scénariste lambda qu'il a du mal, oui, mais c'est normal. Il se
Ouais.
sent comme de la merde, mais c'est normal. Il n'arrive
Ouais.
pas à écrire, c'est normal. Il n'arrive pas à vendre des trucs, c'est normal. Le jugement sur la qualité, il vient pas de ces considérations-là, il vient d'autres choses. Et on écrit bien, on n'écrit pas bien.
Non, mais c'est, je
On
suis tout à fait
touche, on
d'accord.
touche pas.
Moi, ça a changé ma vie, hein. En fait, j'ai pas pu me penser scénariste, j'ai pas pu commencer à écrire avant de découvrir le Writers Panel. Ça a vraiment, vraiment complètement changé ma vie. Donc, on mettra bien sûr les liens sur le post, sur le site, qui est toujours icannotsitstill.com. Plug! Mais alors, du coup, justement, parce qu'un des trucs que j'aime bien, c'est donc il te pose des questions assez spécifiques sur les méthodes et sur comment les gens ont commencé leur carrière, comment ils ont travaillé sur certaines séries. Ça démystifie aussi le côté toutes les séries américaines sont écrites pareil. Moi,
C'est ça.
j'ai croisé à Comic-Con un mec qui, à la fin de mes interventions, il est venu me voir et il me dit j'avais animé un débat sur un documentaire français sur les jeux vidéo et le cinéma. Et le mec me dit, oui, vous avez dit que vous étiez scénariste. Je dis, oui. Parce que, bon, si je commence à expliquer tout ce que je fais dans quand je fais des interventions publiques, c'est la fin des haricots. Et je dis, oui. Et il me dit, vous avez des conseils? Parce que, en fait, j'essaie de rentrer dans le programme de Nanterre, mais c'est très, très difficile de rentrer. Et j'ai fait le programme de. J'ai dit quoi? Il dit, oui, un truc pour apprendre à écrire des séries. J'étais là, ok. Et là, il commence à me décrire le truc. Je fais, tu parles anglais? Il me dit oui, je dis Nerdy's Writers Panel, écoute tous les épisodes. Et je dis ensuite, the first rule of writing is write, donc écris, c'est ce qui est le plus important. Et après, je dis genre 3 ou 4 trucs comme ça, mais en gros, le premier truc que je dis, c'est tu parles anglais, écoute ce Nerdy's Writers Panel. Et je lui ai aussi, bien sûr, dit d'écouter Dialogue d'auteur. Absolument, je tiens
C'est
à le dire,
gentil.
je lui ai dit aussi. Mais c'est vrai que vu qu'il y a 300 épisodes de Nerdy's Writers Panel, je pensais que ça faisait plus école d'écriture que les 13 à toi. Mais
Non, mais en fait, c'est parce que Ben Blacker, il travaille sur un network, moi je travaille sur le câble, donc j'ai moins d'épisodes à fournir.
tu travailles sur le câble anglais, hein, parce que 13
Je fais,
épisodes
voilà,
en 2 ans et demi.
je fais le Sherlock du podcast.
C'est ça.
Trois
Alors.
épisodes tous les 3 ans.
Mais du coup, je voulais commencer par te poser une question, donc parlons un peu vraiment
Vas-y.
scénario. Je vais te poser une question que Ben Blacker pose régulièrement et que j'aime beaucoup.
Vas-y.
C'est qu'il demande souvent, à quel âge vous avez réalisé, donc à quel âge, je vais te dire à toi, à quel âge est-ce que tu as compris que la fiction, ça s'écrivait, qu'il y avait des gens qui faisaient ce travail-là, d'écrire les histoires?
Alors,
Spécifiquement à la télé, mais pas uniquement, si d'abord.
non, c'était pas par la télévision, même si j'étais déjà gros consommateur de télé. Moi, je me suis formé à la télévision en regardant les Chevaliers du Zodiaque, Cobra et toutes les séries d'animation qui passaient sur toutes les chaînes possibles. Étant fils unique, soit je jouais tout seul avec mes Lego, soit je regardais des dessins animés. Donc c'était à peu près. C'est très bien, hein, mais bon, c'est du coup. J'ai bouffé énormément de fiction quand j'étais gamin. Ça continue. Non, c'est par le cinéma. Et en fait, c'est quand t'as 8 ou 9 ans. Alors ça me fait très bizarre parce qu'en fait j'ai des relations très conflictuelles avec cette œuvre de manière générale aujourd'hui, voire un petit peu épidermique, mais c'est avec James Bond.
J'étais sûre, quand t'as dit j'ai des relations très conflictuelles avec cette œuvre aujourd'hui, voire un peu épidermique, je me suis dit, oh, il va dire James Bond, il va dire James Bond. Et oui. Enfin, je te raconterai une anecdote sur le problème de James Bond. Mais oui, et justement,
Il n'y en a pas qu'un seul.
Non, non,
C'est
mais.
en fait, c'est à partir du moment où j'ai vu le nom de Ian Fleming, où je me suis dit, tiens, pourquoi c'est autant mis en avant quand je regarde James Bond, Ian Fleming? Ah, en fait, Ian Fleming a créé James Bond. Ah, très bien, il a écrit des romans. Ah, ok, donc déjà, c'était pas forcément, tiens, il y a quelqu'un qui a écrit un scénario pour faire un film, c'est, ah, tiens, il y a quelqu'un qui a écrit un roman et c'est devenu un film. Et du coup, j'ai commencé à creuser à ce moment-là, je me souviens plus de toutes les étapes après, mais j'ai commencé à creuser à ce moment-là en me disant, ah ouais, en fait, ce que je vois à l'écran, il y a quelqu'un qui l'a écrit avant. C'est à partir de là que j'ai compris cet
La
aspect-là.
mécanique, ouais,
Donc
effectivement.
c'était très très tôt, et je me souviens sur une machine à écrire qui décalait
Oui.
une lettre sur trois au minimum. Avoir écrit une scène d'ouverture d'un James Bond. Eh ben, je peux vous dire que ma scène d'ouverture de James Bond quand j'avais 7 ans n'était pas plus stupide que ce que j'ai pu voir après dans les films de Pierce Brosnan. C'était même assez grounded, tu vois, c'était genre crédible, quoi, en fait. Ok, il était debout sur une aile d'avion, mais globalement, par rapport à. Je me souviens même plus des titres de la période Pierce Brosnan. Moi, c'est pas si choquant que
Goldfinger,
ça.
je crois qu'il y avait Goldfinger à un moment.
GoldenEye. GoldenEye.
Ah pardon, oui,
GoldenEye.
Goldfinger. Non, excuse-moi, j'ai honte,
Grand
Goldeneye.
moment GoldenEye où pendant tout le
Et
film, on
Tomorrow
lui dit
Never Dies.
il faut récupérer le GoldenEye. Il faut récupérer. Ouais, je vais récupérer le GoldenEye. Ouais, j'y vais pour ça. Je tue tout le monde pour ça. Et à la fin, il sort. Il n'a pas le GoldenEye. Et personne lui demande de GoldenEye. Mais par contre, il a la fille dans les bras, donc c'est cool.
Mais Tomorrow Never Dies.
Tomorrow Never Dies. Ça doit être celui que je préfère. C'est avec. Comment il
Mais
s'appelle?
moi je connais que les chansons.
Mais
Mais non, je crois
l'antagoniste.
surtout, il y a Terry Hatcher dans celui-là.
C'est ça. Et
Il y a Terry Hatcher, c'est pour ça que j'ai vu des bouts. Mais
il
j'aime
y a
bien
un
Rusty,
pseudo
donc j'ai vu
Rupert
des.
Murdoch dedans. C'est pas le plus
Oui.
dégueu. Il y a vraiment des trucs cool dans celui-là.
Mais moi, ce que je connais généralement, c'est la musique, la chanson. Moi, je connais, je sais que c'est la chanson de Sheryl Crow,
C'est
celle-là.
ça.
Tomorrow never
Et
dies.
du coup, c'est par Ian Fleming en fait que je me suis que j'ai commencé à comprendre que donc il y avait un Gus qui écrivait. Et après, ça s'est prolongé. En fait, je pense que j'ai rebondi très vite sur Stephen King. Et donc, j'ai consommé beaucoup d'adaptations de Stephen King et de bouquins de Stephen King, beaucoup trop tôt, je pense. Mais
Ah,
comme.
c'est pour ça que t'écoutes des trucs, des podcasts d'horreur.
Ah, bah ça, oui, ça, c'est. Oui, entre 11 et. Même avant, d'ailleurs. Entre 11 et 15, 16 ans, je consommais du Stephen King à tour de bras, quoi. Et c'est cool, quelque part, ça construit. Stephen King, il fait pas que des choses bien, mais il a une vraie discipline d'écriture, et donc c'est intéressant de creuser ça. Ça provoque aussi pas mal de cauchemars, soyons clairs. Il y a des périodes où je lisais des romans de Stephen King où je sortais de chez moi au mois de novembre et j'avais une sorte de temps un petit peu brumeux et je me demandais quel monstre allait sortir de la brume à côté de chez moi.
Ok.
Mais non, mais c'est bien, ça construit, ça détruit un peu, mais ça construit aussi. Mais ouais, c'est par là en fait que j'ai commencé à comprendre que ouais, y avait quelqu'un qui écrivait quelque chose. Par contre, la notion de scénario, c'est arrivé, je pense, le plus fortement avec deux auteurs, un que aujourd'hui je ne supporte plus et l'autre que je continue à suivre, c'est Luc Besson et Quentin Tarantino. Luc Besson parce qu'il a une.
Laisse-moi deviner lequel tu ne supportes plus. Pardon.
On va faire un jeu.
En même temps, il y a des gens qui aiment plus Tarantino, hein, mais
Ouais, mais je comprends, hein. Après,
moi j'adore, mais.
j'admets totalement. Le truc, c'est les deux, parce que le premier, Luc Besson, parlait du scénario comme étant sa partie favorite de la création. Il faisait aussi ses bouquins sur ses films, qui étaient vraiment des trucs hyper intéressants, mais plus sur la réalisation que sur l'écriture. Parce qu'il est vraiment, enfin, il était vraiment inventif au niveau de la réalisation. Il a un sens de l'image assez. Donc, qui aujourd'hui s'auto-caricature, parce que t'as un peu l'impression qu'il filme une pub pour un parfum tout le temps. Mais avant, il avait vraiment des idées de réal intéressantes. Et toujours un sens très graphique. Mais il parlait énormément d'écriture comme le truc qui lui plaisait le plus, parce que. Hein, tout ça. Et du coup, ça mettait le doigt dessus, en fait. Comme quoi, même un mauvais scénariste, le simple fait qu'il te parle d'écriture te fait comprendre qu'il y a cet aspect-là et que bah, ça vaut le coup de creuser. Donc là c'est bien parce qu'en fait si jamais Europa Corp voulait me faire bosser vu que je viens de dire que Luc Besson était un mauvais scénariste, je viens de me griller. Bon, c'est pas
Mais tu peux pas bosser pour Europa Corp.
grave.
C'est ça, c'est le secret de Polichinelle du milieu parisien de l'écriture et de la production. Je veux dire, il n'y a pas une seule personne qui dit Europa Corp sans avoir peur, parce que c'est pas qu'ils font pas des choses bien. C'est plus
Non, non.
compliqué que ça. C'est juste que c'est très difficile de travailler avec eux et c'est très difficile d'en sortir indemne et que ton projet en sorte indemne. Donc, disons qu'il a des visions très spécifiques de ce qu'il veut faire et voilà, c'est pas toujours compatible avec la vision d'autres gens. Donc, c'est dangereux de travailler pour Europa Corp.
Et puis
Je suis
je.
désolée de le dire, mais c'est pas moi. Enfin, moi, j'ai pas personnellement jamais travaillé avec eux. C'est ce qu'on dit sur la place parisienne parce qu'il y a plein de gens qui ont eu des expériences compliquées, quoi.
Et je blâme
Donc, ne
même pas
t'inquiète
parce
pas,
que
c'est
le
bien.
fait est que ça marche très bien pour lui, donc il aurait tort de changer de manière de fonctionner.
Oui, et puis
Bon.
après tout, il a créé son truc pour pouvoir faire ce qu'il voulait, donc
Tout à fait. Je veux dire, là, à
il
l'heure
fait ce qu'il
actuelle,
veut.
je pense qu'il est au stade où il s'amuse avec son truc et. Je pense qu'aussi il a atteint un niveau où si les critiques n'aiment pas, si les gens n'aiment pas, il en a complètement rien à foutre. J'ai envie de dire tant mieux pour lui, quoi. Après, voilà, il fait bosser des gens, c'est pas toujours évident. Bon, il a créé un empire. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer de ça, de partir de la réalisation et de créer un empire comme lui l'a fait. Donc il a au moins ça
Oui, et
de
puis il
bon
a
dans
la
sa
volonté
carrière.
de créer des choses très
Voilà.
diverses. Mais voilà, en gros, l'expérience du travail avec chez pour Europacorp, dans certains cas, est compliquée.
Ouais. Et donc l'autre, c'est Quentin Tarantino, parce que bah, lui aussi, pour le coup, met en avant l'écriture depuis le début. Il écrivait ses scénarios en travaillant dans un vidéo club, et il en parle ad nauseam. Il explique qu'il prend des notes sur un carnet, des notes de personnages, il décrit d'abord les personnages. Enfin, du coup, je me plonge dans ces trucs-là où je commence par des interviews. J'avais été complètement fasciné par Reservoir Dogs et un niveau au-dessus par Pulp Fiction pour son utilisation de la déconstruction de la narration. Où je m'étais dit là, c'est vraiment enfin, je le réalise maintenant, mais à l'époque, c'était inconscient, quoi, que c'est vraiment un truc de scénariste, quoi. C'est la volonté de déconstruire son jouet, de faire du montage avant même le tournage. Enfin, du coup, ça, tous ces trucs-là m'ont absolument fasciné. Et il n'y a pas grand monde qui parle avec autant de passion, peut-être à part les gens qui travaillent à la télévision américaine, mais qui parlent avec autant de passion de l'écriture.
Ouais. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que tu sais qu'il a. L'exemple parfait de l'influence qu'il peut avoir, c'est que. Tu connais cette histoire avec Danny Strong? Je t'ai déjà raconté ce
Vas-y.
truc sur Danny Strong. Donc, Danny
C'est possible.
Strong, qui joue Jonathan dans Buffy, mais qu'entre-temps est devenu un scénariste très reconnu, il était dans Gilmore Girls aussi, qui jouait dans Gilmore Girls et qui ensuite est passé au scénario, qui a écrit plusieurs films pour HBO qui ont gagné, qui ont été couverts de prix. En plus des trucs avec Kevin Bacon, Julianne Moore, Laura Dern, enfin c'était Recount et l'autre c'était celui Game Change, et qui ensuite a écrit les deux derniers Hunger Games et a co-créé, a écrit Le Majordome qui est un film étonnamment bien par rapport à son trailer, et qui a écrit aussi, qui a co-créé avec Lee Daniels et qui gère avec Lee Daniels Empire. Et ce mec-là, dans une interview, il raconte qu'en fait, parce qu'un des trucs qui est passionnant pour lui, c'est que c'est un des rares scénaristes blancs qui écrit ben, beaucoup de personnages afro-américains avec un vrai point de vue afro-américain. Et ça m'a toujours étonnée. Surtout quand j'ai vu enfin, The Butler, qui est l'histoire du majordome black de la Maison Blanche, qui est resté majordome pendant 40 ans à la Maison Blanche, donc sous quatre différents, enfin sur 40 ans de présidents américains très différents. Il a repris sa retraite avant Obama, mais il a été invité à la Maison Blanche sous Obama. Quelqu'un qui vient de l'esclavage du Sud et qui a, enfin, voilà. Et ce film-là, toujours est-il que j'étais hyper étonnée et jusqu'à ce que je lise dans une interview qu'en fait il avait grandi à Los Angeles et que son vidéoclub de quartier, c'était là où bossait Quentin
Ah
Tarantino. Et qu'en gros, Quentin Tarantino a fait toute sa culture cinématographique. En fait, il a en fait toute sa formation à Danny Strong, c'est d'écouter et de suivre à la trace Tarantino. Au vidéoclub pendant qu'il lui disait quoi regarder, quoi penser des films, que faire et tout.
oui.
Et du coup, c'est génial parce qu'il a littéralement formé un scénariste, tu vois, juste en parlant. Et la blague, c'est qu'ils ont gagné, c'est qu'en fait, du coup, lui, en fait, c'était avant Reservoir Dogs, donc du coup, Danny Strong a suivi de loin sa carrière. Ensuite, ils ont un ami en commun, enfin, quelqu'un en commun qui en a parlé à Tarantino, qui s'est souvenu de lui en disant oui, il l'appelait Little Quentin. Danny Strong à l'époque tellement il le suivait partout dans le magasin et puis en fait il disait que Tarantino était connu dans tout le quartier, enfin c'était une espèce de figure locale, tout le monde disait qu'il allait devenir un cinéaste quoi, tout le monde en était sûr et en fait ils ont gagné et en fait ils se sont revus pour la première fois le soir des Golden Globes où ils ont tous les deux gagné meilleur scénario. Tarantino pour je pense que c'est Django et justement Danny Strong pour Game Change, enfin un truc de HBO. Et donc du coup, ils ont le même soir, ils ont gagné le Golden Globe meilleur scénariste et apparemment toute la soirée Tarantino parce que du coup, enfin du coup, ils se sont revus avant machin et tout, enfin dans la soirée et apparemment, il a passé toute la soirée à faire Look, it's Little Quentin et à raconter l'anecdote à l'intégralité des gens qui croisaient sur le fait que voilà, il y avait chacun avec leur Golden Globe à la main. Tout ça pour dire que tu as raison de voir Tarantino comme une inspiration parce que ça l'est et enfin moi je partage complètement Ce que tu viens de dire, j'ai jamais même réfléchi à ce point-là, mais en parlant de Pulp Fiction, mais moi, Pulp Fiction, ça a été un choc. Moi, c'est un tout petit peu différent parce que moi, en fait, je l'ai vu au cinéma un an après sa sortie, parce que j'étais quand même jeune. C'est sorti, j'avais 14 ans, donc c'était un peu... Enfin, en plus, moi, j'ai jamais vraiment vu de film violent et tout, donc aller le voir au cinéma, c'était compliqué. Je suis quand même allée le voir dans un truc, ouais, quand j'avais 15 ans, au cinéma d'art et d'essai. J'ai pas du tout aimé. Je suis sortie en disant, c'est de la banalisation de la violence, c'est une catastrophe, comment on peut oser faire ça et tout. Et ensuite, je suis partie vivre en Russie, où j'avais un accès extrêmement limité à la culture populaire. Et je me mourais. Je me mourais. Je regardais Melrose Place doublé en russe tous les soirs, mais ça ne me suffisait pas. J'avais aucune cassette vidéo, j'avais rien, c'était horrible. Et du coup, enfin, j'ai commencé à regarder d'autres trucs, mais tu vois, c'était tout doublé bizarrement et tout machin. Et un jour, je suis entrée dans un magasin de cassettes vidéo au bout de 2-3 mois. Et je leur ai demandé s'ils avaient des choses non doublées. Et ils ont dit... On a Independence Day et Pulp Fiction. Et j'ai fait OK. Et donc je dis OK, Pulp Fiction. Je dis combien ça coûte? Ils me disent 20 roubles. 20 roubles, c'était 20 francs à l'époque. J'étais sérieusement? Je fais OK. Et le mec, genre OK. Genre putain, on vient de l'arnaquer, on lui paye, on lui file une cassette sans doublage au même prix qu'une cassette doublée, quoi. Alors qu'en plus à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais les cassettes en VO, ça coûtait une fortune, sans parler des imports. Enfin, donc, du coup, quelques jours plus tard, je reviens, et donc en fait, j'avais une version de Pulp Fiction, alors clairement copiée pour la 8e fois sur une autre cassette. Enfin, tu vois, donc c'était la version d'origine, mais t'entendais presque pas le son. Enfin, t'entendais très peu de son. Et je pense que je l'ai regardé, je pense presque tous les jours pendant le reste de mon année, parce que c'était le seul objet culturel de pop culture que j'avais. En langue originale pratiquement. Et du coup, surtout, j'avais pas de sous-titres, mais je parlais bien anglais, mais je parlais pas anglais comme je parle aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai écouté des milliards de fois le truc pour comprendre ce qu'il disait. Tu vois, j'écoutais, je réécoutais, je réécoutais. Tu sais, comme quand t'écoutais des paroles, quand t'écoutais des paroles de chansons, avant qu'on ait Internet avec les paroles et que t'essayais de comprendre c'était quoi le mot qu'il disait. Et j'avais des amies américaines, et du coup, je me rappelle, j'ai fait un visionnage avec mes copines américaines où j'appuyais sur pause, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'ai le souvenir de la décomposition des blagues et des expressions par mes
Ouais.
copines américaines qui me disent ah oui là il vient de dire ça, mais attention en fait c'est une expression qui ne s'utiliserait pas, c'est très vieillot donc ça donne enfin tu vois en fait un décryptage des dialogues. Donc moi c'est pas tant la structure
Ouais.
qui m'a frappée, c'est les dialogues et c'est comment tu manipules la langue, ce que tu fais dire à la langue, la façon dont tu donnes des informations ou pas dans chaque phrase, à quel moment, parce que le truc c'est que vu que tu comprends pas tout, à chaque fois tu dis est-ce que j'ai raté un truc important? Je comprends pas de quoi il parle, c'est normal, c'est parce que j'ai pas compris ou c'est parce qu'ils l'ont pas encore dit. Du coup tu commences à réaliser où est la narration dans les dialogues. Et jusqu'à ce qu'on en parle là tout de suite, j'avais jamais réalisé à quel point c'était fondateur. Mais c'est clairement cette espèce de décryptage, d'analyse, mot par mot de Pulp Fiction qui a été ma première. Moi, enfin, ma mère était déjà scénariste en fait. Donc, moi déjà, ce métier-là, ça existait. Mais je pense que ce que tu peux faire avec un scénario. Jusque-là, je voyais que tu peux faire rire. Je voyais que tu dois donner des informations sur ce qui se passe dans la vie intérieure des personnages et ce qui se passe dans la trame. Mais Pulp Fiction, en fait, c'était le degré supérieur. D'ailleurs, quand j'écris mon mémoire sur Buffy, je parle du fait que Buffy est la première série vraiment méta. Et enfin, en tout cas, assumée, je dis, mais c'est pas par hasard que ça vienne juste après Pulp Fiction et Scream. Et en fait, c'est ça. Pour moi, c'est la même lignée, quoi. C'est cette espèce d'autoréflexion sur l'art, quoi. C'est le postmoderne, en fait. Donc, oui. Donc, voilà. Je suis entièrement d'accord, Tarantino, notre grand maître à tous. Et puis, c'est le mec qui s'intéresse aux meufs et aux blagues. Je suis désolée. Ça fait juste plaisir. Non, mais en plus, c'est l'archétype. Il se fait critiquer pour un pseudo-racisme parce que les gens n'aiment pas ce qu'il écrit. Mais en réalité, c'est l'archétype de l'hétéro blanc. Du mec hétéro blanc qui s'intéresse, qui parle systématiquement des femmes et des blagues, quoi. C'est
Oui, bien sûr.
incroyable.
Et pour la petite anecdote, en fait, un scénario de Pulp Fiction avait été était un des rares scénarios en vente en livre de poche. Et
I
du coup,
have it. Je
ouais,
l'ai dans
bah,
ma
je l'ai aussi.
bibliothèque.
qui est dans ma bibliothèque.
Je l'ai acheté dès mon retour de Russie parce que ça faisait 10 mois que je voulais savoir ce qu'il disait. Donc quand j'ai vu le bouquin, j'ai fait, maintenant je vais enfin savoir.
Mais en fait, ce scénario-là, en dehors de la façon de nommer les scènes, de comment dire, de former les didascalies, puis les dialogues et tout ça, ça m'a appris la forme du scénario. Ça m'a aussi appris à peu près la durée que c'était censé faire, parce que du coup j'ai déconstruit combien il y avait de caractères dans une page, combien de lignes, tout ça, et ça me permettait de savoir à peu près si moi je voulais écrire mon propre scénario, combien je devais écrire de pages de scénario pour obtenir combien de temps de... Donc du coup, c'est vrai que mon éducation au niveau de la structure, au niveau de ces choses-là, c'est fait au contact de la fiction, mais pas forcément au contact d'une formation. Je conseille d'ailleurs au cas par cas certaines formations quand j'en entends dire du bien. Toutes ne
C'est-à-dire
sont
la
pas
mienne?
toutes ne sont pas bonnes, mais il y en a certaines qui valent vraiment le coup d'être faites. Même des formations institutionnalisées comme la formation de la FENIS ou du CEA. Mais du coup, moi, ma formation, je me la suis faite sur le tas. Et c'est ce que je peux conseiller à des gens qui ne se voient pas ouvrir les portes de la FENIS, qui ne se voient pas ouvrir les portes du CEA, qui ne se voient pas ouvrir les portes de Sancier ou de je ne sais quelle autre université, où là, par contre, je connais pas du tout les formations, je sais pas ce que ça donne. Bah déjà, faut lire des scénarios. Faut regarder de la fiction, puis vous regardez un film ou une série, vous aimez ce que vous regardez, mais vous avez envie d'en savoir plus, bah, dans ce cas-là, vous téléchargez parce que maintenant c'est disponible assez facilement, assez simplement, ce qui n'était vraiment pas le cas à notre époque. Téléchargez le script, lisez le script, essayez de comparer avec les images, voir ce que ça donne, et c'est comme ça que vous arriverez à essayer de voir à quel moment il y a un retournement de situation, pourquoi c'est à cet endroit-là, comment comment dire, ils ont fait pour caractériser les personnages d'entrée de jeu, est-ce que c'est par le dialogue, est-ce que c'est par leur description, donc par l'image, enfin. Du coup, moi j'ai envie de dire, la première formation qu'on peut se faire pour devenir scénariste, une fois qu'on s'est rendu compte qu'un scénariste ça existait, c'est de lire des scénarios.
Absolument.
Et lire de manière générale, bien entendu, mais lire des scénarios avant tout, parce que c'est ce qui permet... lire des bons scénarios, lire des mauvais scénarios aussi, ça aide. C'est étrange, mais ça aide. Parce que en lisant un mauvais
Ouais.
scénario, ça permet de travailler le sens critique, votre propre sens critique, votre capacité de retour. Qu'est-ce que vous auriez fait pour que ce scénario réputé mauvais soit bon? Et du coup, ça vous fait travailler, ça vous fait réagir. C'est forcément intéressant.
Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'avoue que d'ailleurs il y a un bouquin que j'avais acheté par hasard il y a des années, un bouquin sur un c'est une espèce de transcript d'un cours de cinéma américain qui s'appelle Good Scripts, Bad Scripts et c'est une analyse de 20 scénars de films très connus avec 10 mauvais, 10 bons. Donc par exemple il y a Le Diamant du Nil dans les mauvais, il y a Fargo dans les bons, il y a Pulp Fiction aussi dans avec et Fargo et Pulp Fiction qui commencent par dire bon alors première chose, essayez pas de faire pareil parce que c'est pas possible. On va expliquer pourquoi ces scénarios devraient être une mauvaise idée, mais il se trouve qu'ils fonctionnent. Et notamment Fargo, c'est totalement passionnant parce que j'ai compris tout le truc, même si c'est un truc qui est déjà dans Psychose, tout le principe de du personnage, de ton personnage, le personnage qui est là pour le spectateur qui n'arrive que. Enfin, donc dans le cas de Psychose, c'est pas tant le personnage qui plaît au spectateur que le personnage principal qui arrive très tard dans le film. Mais dans Fargo, l'idée que le personnage que you root for, ce principe hollywoodien du personnage du côté duquel tu es, qui est Frances McDormand qui n'arrive qu'à la moitié du film.
C'est comment j'avais animé une formation sur l'écriture de pilotes pour l'association Séquence 7, qui est une association de scénaristes émergents que je vous conseille grandement. Elle est très bien gérée, il y a des gens vraiment très intéressants. Et ça permet justement d'avoir des retours d'expérience, d'avoir des discussions autour de l'écriture et d'avoir accès à des formations. Moi j'en avais fait une sur l'écriture de pilotes. Et je réagis sur ce que tu viens de dire parce qu'en fait, quand je demandais aux gens quels étaient leurs pilotes préférés, il y a eu une session où j'ai entendu. Bon, évidemment, tu entends toujours ce que tu
Lost.
entends en France, c'est-à-dire, ouais, le pilote de The Wire, ouais, le pilote des Sopranos, ouais, enfin, toujours des pilotes un petit peu où tu te dis, ouais, mais c'est déjà des cas particuliers, donc calmons-nous. Mais il y en a un qui est revenu de temps en temps, ce que je peux comprendre tout à fait, au visionnage, il est très marquant, c'est le pilote de Twin Peaks. Et très clairement, c'est un petit peu comme les vidéos de cascade à la télé où on te met ne faites pas ça chez vous. Le pilote de Twin Peaks, au niveau écriture, c'est non, clairement, ne faites pas ça chez vous. Parce qu'il faut pas oublier un truc, le pilote de Twin Peaks, c'est 45 minutes de gens qui pleurent. Et au bout de 45 minutes, le héros arrive. Ça marche là. Mais très franchement, sur un cas qui fonctionne, il y en a 99 qui se plantent royalement.
C'est clair.
C'est juste le truc qu'il faut, techniquement, qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que ton protagoniste ne peut pas arriver à l'équivalent de la moitié de ton épisode, surtout que c'est un épisode de 90 minutes.
D'une... Oui, c'est ça.
Déjà, c'est un épisode pilote de 90 minutes, donc déjà ça ne se fait plus. Enfin, quasiment plus. Je crois qu'il y a A&E aux États-Unis qui le fait toujours, mais sinon, personne ne fait plus de 90 minutes. Et donc, il arrive au bout de Del Cooper. Quand j'ai revu le pilote, je me disais, mais il arrive pas, hein? Ah non. Ok. Il arrive toujours pas,
Il est
mais
toujours pas
ça fait.
là. Il est toujours pas là. Il est où?
Et là, coupure pub, donc aux 40, 45 minutes, c'est-à-dire à l'heure de diffusion aux États-Unis. Ah, là, Del Cooper. Ah ouais. Ok. Donc. Et là, dans n'importe quel cours d'écriture de pilote, on me dirait non, non, mais tu commences avec l'arrivée de Del Cooper et après tu remontes possiblement l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé avant. Non, non.
Non,
Twin
mais
Peaks,
surtout,
c'est.
mais surtout parce que tu n'as pas David Lynch à la caméra en plus, donc
T'as pas, et t'as pas Mark Frost à l'écriture et t'as pas
et
une
t'as
sorte de
pas Kyle
synergie
MacLachlan
bizarre.
pour que ça vaille le coup quand il finit par
C'est clair.
apparaître.
C'est clair. C'est clair que si après t'arrives et c'est Eddie Tribrian qui débarque, tout de suite tu te dis oh, putain, j'ai attendu
Non,
3 quarts d'heure pour voir Eddie
pas de
Tribrian.
négativité, pas de négativité. On n'est pas négatif dans ce podcast. Je vois le retourner et même si je pourrais te parler pendant des heures, et d'ailleurs on en parle depuis des années, on continue à en parler pendant des années, je vais faire un virage direct sur la
Vas-y.
télévision. Alors le truc c'est que donc moi j'ai le plaisir j'ai eu le plaisir d'être formatrice aussi et sur l'écriture de séries. Et oui, je vous donnerai l'adresse, les enfants. Tout ça pour dire qu'un des trucs que je dis à mes étudiants, c'est d'étudier leur maître. Tu vois, moi, c'est pas pour rien que je peux parler autant de Buffy, c'est parce que le fait que ça m'ait tant marqué, tant touché, je me suis dit, ok, je veux comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Qu'est-ce qui est le truc qui, moi, me plaît? Et en fait, je pense que c'est vraiment une leçon à donner. Tout le monde n'est pas fan des mêmes choses, et clairement, les choses dont tu es fan, c'est quand même. C'est peut-être pas ce que tu vas finir par faire, mais c'est clairement, ça te renseigne sur ta sensibilité, sur les zones qui t'intéressent.
Bien
Et
sûr.
donc c'est vrai que de comprendre comment, par exemple, Tarantino a manipulé le langage, de comprendre comment Buffy est construit, de comprendre comment, pour parler d'un autre grand exemple, le film fondateur qui est pour moi, qui est Philadelphia Story, de comprendre comment le personnage principal de Philadelphia Story, donc qui est une comédie américaine des années 40, pas les Philadelphia avec Tom Hanks. Comprendre comment le personnage principal est déconstruit et se dévoile petit à petit dans cette comédie. Et pour moi, un truc qui a été, j'ai passé toute mon adolescence à me demander, mais comment on sait ce qu'elle pense et comment on sait ce qu'elle ressent et pourquoi maintenant elle pense ci et ça. Tout ça, c'est comme ça que j'ai appris comment moi je veux essayer d'écrire. Et du coup, ma question double est pourquoi la télévision? Parce que tu écris surtout des projets. Je sais que je pense que tu as eu d'autres projets. On n'a
Oui.
jamais des projets que dans un seul format, mais quand même, clairement, tu t'intéresses à la télévision. Pourquoi la télévision? Pourquoi être scénariste de télévision? Ça t'intéresse? Et les modèles, les vrais modèles, pas les trucs qui t'ont influencé au départ, mais les trucs aujourd'hui que tu as envie de te dire, mais comment il
Ouais.
fait?
Pourquoi la télévision? Je crois que c'est avant tout parce que ce qui m'a toujours fasciné avec ce mode d'expression, c'est la possibilité de creuser réellement un personnage et de lui faire vivre comment dire, des retournements pas forcément des retournements de situation, mais des changements dans son existence qui paraîtraient beaucoup trop expédiés au cinéma et qui, là, à la télévision, paraissent naturels. Je reviendrai là-dessus en parlant de mes références, surtout une référence, parce que le temps file vite. Mais la télévision, et c'est pas seulement une histoire de durée, c'est une histoire vraiment de possibilités, de format. Moi, plus ça va, plus je théorise les choses. Pour moi, le cinéma, c'est comment dire, c'est le média du moment. Et la télévision, c'est le média du destin, en fait. Bien entendu, on peut décrire des destins au cinéma, c'est tout à fait possible. Moi,
Bien sûr,
je sais que je suis
c'est
relativement
plus
allergique
compliqué.
aux biopics. J'ai tendance à pas trop apprécier, même s'il y a des très bons exemples, hein, bien entendu. J'ai tendance à pas trop apprécier le
Enfin,
truc.
c'est pas une exception qui, voilà.
Voilà. Pour moi, c'est très compliqué de décrire une vie au cinéma, mais à un moment dans une vie, oui. Par exemple, je sais pas, là, je pensais à un film d'Asghar Farhadi qui m'avait vraiment marqué et touché, une séparation. Voilà, on reste pendant quelques semaines avec une famille dont les parents se séparent et les conséquences que ça a derrière. Et c'est en plus, je vous le conseille vraiment, c'est filmé comme un thriller et en même temps, c'est humainement, enfin, c'est dévastateur, quoi. C'est un film merveilleux.
C'est
Et mais voilà,
magnifique.
on n'a pas pris ce couple qui se rencontre, ce couple qui s'aime, et puis ce couple qui décide de se séparer, et puis la séparation, et puis l'après la séparation. Non, on part du principe, pour moi, pour raconter une belle histoire, c'est au cinéma, c'est bah non, on va se concentrer sur cet aspect-là, parce que sinon, on n'aura pas le temps de creuser. On n'aura pas la possibilité de rentrer dans l'émotion, et on va passer à côté de quelque chose. À la télévision, on peut se permettre ça, on peut se permettre de montrer toutes ces étapes-là et d'enrichir le rapport entre le téléspectateur et le personnage. Donc pourquoi la télévision plutôt que le cinéma, c'est aussi une question d'opportunité, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment d'idées pour le cinéma, j'ai des idées de court-métrage, mais pas spécialement pour du long, et parce que j'ai envie vraiment de créer quelque chose, de créer un lien entre la personne qui verra l'œuvre et les personnages de l'œuvre. J'ai envie que les personnes reviennent avant tout, pas parce que je les ai surpris, pas parce que je les ai décontenancés et qu'ils veulent savoir, mais alors qu'est-ce qui se passe passé? C'est non, j'ai envie de créer un truc qui leur fasse se dire, j'ai envie de revenir avec cette personne-là, j'ai envie de les entendre à nouveau parler, de nouveau les entendre échanger. Et c'est ça qui me dirige vers la télévision plutôt que le cinéma à l'heure actuelle. Les références, il y en a surtout une qui me vient en tête, surtout par rapport au travail que je suis en train d'accomplir en ce moment, c'est David Milch. Il y a un scénariste qui fait des choses très sombres, très parfois désabusées et dures, et en même temps extrêmement humaines, et qui a une fascination, une obsession même pour la notion de communauté, qui moi me parle énormément. J'en parlais l'autre fois, je ne sais plus avec qui en fait, quand je pense à ma série, je pense à plein de références fantastiques, parce que c'est dans le domaine du fantastique, mais aussi je pense à Deadwood. Qui n'est pas du tout au niveau tonalité dans le même état d'esprit de ce que je suis en train d'écrire, mais qui a une notion de la communauté où tout le monde n'est pas blanc, n'est pas noir. Il y a des personnes bien intentionnées, il y a des personnes très mal intentionnées, mais malgré tout, ils essaient de construire quelque chose sur des bases très problématiques, mais ils essaient de construire quelque chose ensemble. Et c'est un truc que je trouve assez fascinant et extrêmement touchant. Il n'y a rien de tel que de trouver de l'humanité dans une ordure. Ou de le voir quelque part être pardonné, pas forcément absous, mais pardonné, accepté par d'autres.
Ah mais c'est clair, hein.
C'est
Là-dessus, je suis
vraiment
entièrement
quelque
d'accord. Hein.
chose qui
C'est pas pour rien que
me...
Spike est mon personnage préféré. Hein. C'est
Oui.
l'ancien méchant qui devient gentil, mais même pas seulement parfaitement
Non,
gentil.
du tout, du tout.
Il reste lui-même et pourtant c'est juste qu'il a changé. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je ne supporte pas quand une série fait un retournement sur ce genre de choses, parce qu'ils ont besoin dans la saison 3 qu'il
Oui,
redevienne
non.
méchant.
Non, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce que Deadwood m'a appris aussi, et que je compte utiliser aussi, c'est à partir du moment où on personnalise un danger et où on lui parle, moi, personnellement, j'ai plus envie. Je peux plus l'utiliser comme étant quelque chose qui fait totalement peur, qui est toujours totalement un danger. Parce qu'on lui a
C'est-à-dire,
parlé.
attends, explique-moi quand on parle à un danger, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que quand tu as un personnage qui est un antagoniste fort, il a posé des problèmes tout le long, mais qu'à un moment on s'assoit pour parler avec lui et pour en gros le personnaliser, lui donner essayer de comprendre pourquoi il fait ces choses-là, je ne peux plus le considérer totalement comme un antagoniste. D'un seul coup, il y a quelque chose de plus dans le personnage. Je sais pas si je l'explique convenablement.
En fait, ce que tu veux dire, c'est que ça arrête d'être juste le méchant et on a veut qu'il batte,
C'est ça.
qu'il soit battu et qu'il disparaisse. On est tout d'un coup, on est là, ok, on est impliqué, quoi. On a un enjeu émotionnel avec et on veut savoir ce qui lui arrive, quoi. C'est
C'est
ça que tu veux
ça.
dire?
C'est ce que tu vois avec Al Silver Engine dans Deadwood. C'est que à force de le voir interagir avec les personnages positifs de la série, tu vois les bons côtés du personnage, même si ce qu'il fait au début de la série, c'est là aussi le génie du truc, c'est que c'est totalement impardonnable ce qu'il fait au départ. Et malgré tout, tu finis par le pardonner, avancer avec lui, comprendre pourquoi il en est arrivé là. Et à la fin, tu es même de son côté, quoi. T'es pas forcément de son
J'ai
côté par
toujours pas
rapport.
vu Deadwood. Chut. Non mais je vois tout à fait de quel personnage tu parles parce que même sans avoir vu Deadwood, je m'intéresse trop au scénario et je m'intéresse trop aux œuvres intéressantes de télévision pour ne pas avoir déjà
Et puis,
quelques idées sur la série quoi.
mais c'est ce que David Milch aussi faisait avec Andy Sipowicz dans NYPD Blue. Andy Sipowicz commence en étant un personnage alcoolique qui insulte tout
Raciste
le
aussi,
monde
non?
et hyper raciste. Et attention, hein, il ne devient pas d'un seul coup activiste anti-racisme ni quoi que ce soit. Il est toujours ça parce qu'il a été élevé comme ça, parce que il approche les, il a 50, 55 ans, donc il peut pas changer diamétralement. Mais t'apprends à aimer ce personnage. Et en fait, c'est tellement vrai en fait, c'est que. Ça serait trop simple si tous les gens racistes étaient des ordures finies, absolument détestables, qui valaient pas le coup d'être aimés. Ça serait tellement facile. Mais c'est pas comme ça. C'est que des fois, c'est des gens
Ouais.
que tu aimes qui sont racistes. C'est ça qui est super dur. C'est ça qui est
Ou
compliqué.
misogyne.
Ou misogyne, bien
Non,
sûr.
mais c'est ça qui est terrible. Ouais. C'est
C'est
ça qui
ça
est
qui est
terrible. C'est
terrible, parce
que...
que
Et
ça
puis surtout,
serait.
ce n'est qu'une partie de leur personnalité. Et
C'est
puis
ça.
c'est lié à des choses. Ouais. Ouais.
Et ça n'empêche pas d'être révolté quand il a des propos racistes, parce que c'est naturel d'être révolté quand on entend des propos racistes. Mais d'un autre côté, tu te dis oui, mais c'est quelqu'un qui est foncièrement fidèle en amitié, qui a justement aussi cette notion de comment dire, quand. Ok, il est raciste, il est un peu. Il est, comment dire, passablement homophobe, un tout petit peu misogyne, mais ça ne
Un
m'empêche
tout petit
pas.
peu. Pour les années 90, ça m'étonnerait. Est-ce que ce
Ouais,
soit
c'est
possible qu'il
vrai,
soit juste un tout petit peu misogyne?
ouais.
Juste, déjà, parce que déjà, le mec le plus
Déjà, de toute
féministe
façon,
dans une
ouais.
série des années 90,
Je t'avoue que
enfin, d'ailleurs.
j'ai pas revu NYPD Blue depuis les années 90. Je pense que ça pourrait être un choc visuel assez
Tu
dramatique à ce
m'étonnes.
niveau-là. Mais malgré tout, quand ce genre de personne rentre dans son cercle. Bah, il ferme pas le cercle et il les admet. C'est aussi le mettre face à ses propres comment dire dysfonctionnements. C'est
Limite,
qu'en fait,
vas-y.
voilà, il est raciste. Mais malgré tout, quand son chef est un noir, quasiment toute la série. Et c'est quelqu'un qu'il fondamentalement respecte et pour qui il ferait. Énormément de choses au bout d'un certain temps dans la série, même si au départ il lui en veut d'avoir eu ce poste que lui aurait voulu avoir et qui met sur le dos des quotas parce qu'il est raciste, faut pas l'oublier non
Ouais.
plus. Mais malgré tout, ça ne l'empêche pas comment dire, de suivre ses ordres et de le défendre. Donc ça le met face à ses inconsistances en fait, ça le met face à la stupidité de son raisonnement de base. Donc c'est intéressant. Et c'est un personnage que tu finis par aimer profondément. Au bout de plusieurs années, vraiment, tu as de la peine pour lui quand il lui arrive des choses difficiles. Et ça, c'est vraiment un truc, une des spécificités de David Milch, c'est la rédemption de la communauté. Et la rédemption ne veut pas dire que la personne a complètement changé et que d'un seul coup, c'est quelqu'un d'hyper bien, comme par exemple, je sais pas, je prends l'exemple d'American History X. Un personnage de néo-nazi retourne sa veste et se retrouve comment dire, dans le camp opposé de manière totalement inverse, où là tu te dis c'est une histoire de rédemption parce qu'il a complètement changé. Chez David Milch, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est une histoire de rédemption, mais fondamentalement, il y a toujours les mêmes problèmes. C'est juste comment on peut intégrer cette personne qui ne devrait pas être possible d'intégrer à la société parce qu'elle va à l'encontre comment dire, des notions même de communauté. Comment on essaye de l'intégrer quand même pour pas qu'elle sombre complètement? Et c'est une obsession de David Lynch parce que lui a de gros problèmes à s'intégrer à la société et qu'il se force lui-même par son travail, par ses amis, par sa femme, par ses enfants, à s'intégrer quand même. Parce qu'il sait très bien que s'il se retrouve tout seul, en marge, comme il, dans son esprit, devrait être, parce qu'il est trop anormal, parce qu'il est trop à la marge, il va encore plus sombrer et ça sera encore pire. Donc il y a cette obsession de dire, ok, t'es différent, t'as des idées qui ne sont pas les bonnes, mais on va quand même te rattacher, parce que si on te rattache pas, de toute façon, tu verras jamais de bons exemples, tu t'en sortiras jamais, t'avanceras jamais. Et ça, je trouve que c'est un geste noble, un peu utopique, mais assez noble de se dire que la communauté s'est formée de gens qui sont pas forcément faits pour s'entendre, mais qui doivent s'unir pour avancer dans une direction qui arrange tout le monde, en fait.
Il y a deux façons d'interpréter ce que tu viens de dire. La première, c'est que tu vas écrire des fictions avec plein de racistes et d'homophobes et de misogynes qui vont être pardonnés. La
Non.
deuxième façon, c'est que, comme moi, tu penses qu'écrire des histoires, faut le faire parce qu'on a envie de les écrire, mais aussi parce qu'on a envie de montrer une vision du monde positive
Ouais.
et en tout cas impactante. Donc là-dessus, je te félicite. Il faut que je te laisse. Je voudrais juste te demander un petit truc de nerd mécanique d'écriture. Là, il y a plein de choses très compliquées dans l'écriture de scénario, notamment dans l'écriture de série. Quel est le truc, l'aspect méthodologique le plus... Donc tu ne pourras pas pouvoir entrer dans le détail, juste le teaser pour une prochaine fois où tu viendras nous raconter. Nous faire une longue interview quand ta série sera prête à être diffusée. L'aspect méthodologique qui était le plus... que tu trouves aujourd'hui le plus important, mais t'es peut-être pas un truc dont tu avais conscience qui était nécessaire. Quelque chose que tu trouves à la fois excitant et difficile, un challenge, le truc auquel tu te dis, mon Dieu, faut que j'y pense, que c'est ça, faut que... Faut... C'est le truc en fait le plus important.
Pour moi, c'est avant de se lancer dans l'écriture d'un scénario. Moi, je conseille la méthode LAX-Files, c'est-à-dire la méthode des fiches, pour avoir une notion plus abordable de la structure. Parce que la structure, bon, moi, c'est quelque chose que j'ai un petit peu ancré dans mon esprit, ça me vient assez naturellement. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, et des fois, même quand on est persuadé de l'avoir, on se plante, on se dit bah ouais c'est bon je vais faire ça, je vais faire ça, et puis ça s'enchaîne bien avec ça, donc c'est cool. Donc pour moi c'est coucher d'abord vaguement les idées, bon bah ce personnage fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, et à la fin de mon premier acte, il en est là. Par quoi on commence le deuxième acte, et ainsi de suite. Donc moi c'est vraiment au niveau méthodologique, je dirais, c'est pas forcément écrire un synopsis ou un résumé ou. Pour moi, les résumés d'épisodes, c'est une plaie, donc j'en parlerai même pas. Ouais, non, pour moi, c'est inutile. Des prods le demandent, des chaînes le demandent, donc on est obligé de le faire, quoi. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Donc moi, vraiment, c'est voilà, avoir le chemin en tête avant de se lancer dans l'écriture, et après.
Donc structure, structure, structure.
Ouais, parce que.
Mais comme tu le dis, je suis tout à fait d'accord. Enfin, ce que moi j'entends dans l'idée des fiches, c'est la méthodologie de créer de la structure en utilisant un format flexible. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas linéaire, où t'écris pas sur un papier, que ce soit sur ordinateur ou sur le papier, dans l'ordre, mais tu prends les éléments et tu peux les déplacer comme un
Ah
puzzle.
non, parce que c'est un
Enfin, pas un
truc.
puzzle, parce qu'un puzzle, tu peux pas le déplacer, faut qu'il reste toujours dans le même sens, mais comme un...
Non, c'est toi qui fais ton propre puzzle et
Voilà, c'est
tu.
ça.
En fait, le fait de l'avoir. En plus, le côté. Alors, ça peut être des fiches, ça peut être des post-it, ça peut être ce que vous voulez. Mais le fait de l'avoir devant soi, d'un seul coup, il est tridimensionnel et on le voit comme on regarderait quelque part une construction. Et on voit tout de suite à quel endroit bah, c'est fragile, à quel endroit ça va s'écrouler en fait. Et donc ça
Ouais.
permet de. Ah bah non, en fait, il me manque une étape à cet endroit-là. En fait, cette scène ne me sert à rien. Je vais prendre ces post-it-là, je vais les mettre de côté, on les réutilisera plus tard, c'était une bonne idée. Mais pour l'instant, ça sert à rien. Ou alors, non, mais en fait, ça, faut que ça arrive avant, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ça permet aussi de créer une timeline, parce qu'il ne faut pas oublier que les événements, même si tu es dans le chaos, les événements doivent suivre une logique. Il y a des événements qui ne peuvent pas se produire avant d'autres, parce que ça n'a pas de logique. Ou alors, si tu veux vraiment que ça se passe avant, bah, tu comprends qu'en fait, tu dois opter pour un récit délinéarisé, parce que tu veux faire sentir des émotions avant de faire ressentir une temporalité. Mais ça veut dire qu'il faut que tu remettes tout en cause, en fait. Il faut que tout soit délinéarisé et logique. Donc, ça, pour moi, ça permet de voir, avant que ça ressemble à un scénario, que ça soit plusieurs pages les unes collées après les autres, ou même limite là, c'est compliqué de regarder. C'est le moment où tu peux regarder de loin. C'est comme un plan avant de te lancer dans une construction. Et pour moi, c'est important, ce genre de truc. Et oui, en effet, je suis assez d'accord. Je préconise le fait que ça soit des choses amovibles. Parce que écrire sur une page, puis raturer, puis revenir et tout ça, c'est confus. Mais après, attention, il y a des scénaristes qui vont te dire, moi je travaille comme ça se passe très bien, et ils font des très bonnes choses. Paul Schrader, quand tu regardes son fil à fil comment dire, pour Taxi Driver, c'est une feuille A4, où il a plusieurs, un, il se passe ça, deux, il se passe ça, et puis c'est griffonné, il y a des flèches, et il pond Taxi Driver, qui est hyper bien écrit.
Ouais,
Donc,
en même temps, c'est un point de vue très solitaire et d'une
tout à
personne, et
fait.
c'est clairement, enfin, c'est clairement. Après, moi, Taxi Driver, c'est un road trip émotionnel pour moi. Du coup, mais il y a l'idée de la, tu sais, du truc du road trip, quoi. C'est-à-dire que c'est un journey, quoi. C'est un voyage. C'est pas une narration classique du tout. Donc, mais après, moi, j'utilise un truc, c'est que je prends des feuilles, enfin, j'utilise des cahiers ou des grandes feuilles A4, et moi, je les retourne
Ouais.
en version paysage, comme ça en fait ça donne une dimension supplémentaire à l'écriture. Tu peux écrire, mais je fais ça pour tout en fait, pour la structure de tout. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit de haut en bas, c'est de haut en bas, de gauche à droite, et plus ben, le truc normal de l'écriture quoi. Et du coup tu peux faire des colonnes, et du coup t'as une dimension en plus. Je sais qu'il faut que tu partes, donc je voudrais te remercier pour cette conversation, c'était vraiment
C'est moi qui te
passionnant.
remercie.
Et je conseille les gens de te suivre sur Twitter. Tu peux nous donner ton Twitter?
At itzedon, ITSZEDON.
Moi c'est Yaelka, YAELKA. Le podcast c'est I Cannot Sit Still, ICA2NOTSITSTIL. Je promets à nos auditeurs que nous essaierons d'avoir Dominique le plus souvent possible parce qu'il est passionnant. Et en plus, il rigole souvent à mes blagues, ce que j'apprécie énormément. Là voilà, par exemple. Mais vous aurez aussi plein d'autres choses. On va parler séries, on va parler culture populaire en général. On a des vieux épisodes à diffuser. En tout cas, jusqu'à la prochaine fois, Dom, je te remercie pour cette conversation et je te souhaite de bonnes séries à écrire ou à regarder.
Aussi, merci.
I look like a very tired Nana Mouskouri, don't I? But I totally look like her.
Est-ce que tu peux chanter Nana Mouskouri?
I'm a pretty good fucking singer, but une chanson. Tu sais que Nana Mouskouri, elle a un album qui date des années 50 qui s'appelle Nana, The Girl from Greece Sings Jazz. Et c'est Nana Mouskouri qui chante des standards de jazz, un truc qu'elle a enregistré à New York. C'est sublime. Bah déjà parce qu'elle a une voix sublime, mais en plus, c'est. Mais en fait, j'adore. J'ai une seule chanson de Nana Mouskouri sur mon ordinateur.
Ah, déjà,
enfin,
t'as une chanson de Nana
non, j'en ai
Mouskouri.
cinq, me dit mon ordinateur. Ah bah justement, j'ai justement des trucs de The Girl from Greece Sings in New York. Mais d'ailleurs, du coup, regarde, écoute. Attends, non, celle-là, on la connaît. Denied. Ça envoie quand même.
Alors que moi, pour moi, Nano Mouskouri, c'est vraiment la pop française insupportable des années 70, 80, et c'est associé à quelque chose de tellement. C'est associé au dimanche après-midi chez ma grand-mère, quoi.
J'arrive pas à croire qu'on est en train de faire de l'or qu'on n'a même pas mis dans le podcast pour l'instant. On mettra ça à la fin en bonus, genre la conversation passionnante sur la remise en question des préjugés culturels que nous avons tous, comme Nana Mouskouri, c'est trop Hélène Voix Sublime.